voudrais vous raconter l'histoire d'une révélation, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui pense et s'apprête à coucher sur le papier les derniers mots de son dernier livre. Pour en arriver là, elle a dû s'isoler dans une petite maison normande, en haut d'une falaise donnant sur la mer. Elle a aimé cet isolement, cette solitude choisie, ce portable qui ne passe pas, être seule avec son livre comme un luxe inouï, arraché aux contingences de la vie et à la dictature des choses à faire. Elle la tient à sa thèse. Malgré le petit crachin glacé, elle décide d'aller se baigner. De toute façon, ici, comme disent les gens d'ici, il fait beau une fois par jour. On n'est jamais à l'abri d'une éclaircie, du soleil qui revient et lave d'un coup la pluie, la balaye soudain avec autorité. Elle emprunte le petit chemin qui descend jusqu'à la plage, abrupte, presque dangereux, coincé entre deux falaises de craie, et elle rentre dans l'eau, la tête encore pleine de son livre, de sa thèse, des derniers mots qui sont venus et qui lui semblent pas mal. Enfin, elle ne sait plus trop. La marée haute lui permet de rentrer assez vite dans l'eau fraîche jusqu'aux épaules. C'est bizarre d'ailleurs que la marée soit haute maintenant. De toute façon, elle ne comprend rien aux marées. Elle s'en fout bien d'ailleurs. Elle prend la mer comme elle vient. Elle aime que la mer la prenne au dépourvu. Et rien ne l'agace tant que ceux qui calculent les marées dans leur tableur Excel. À quoi bon aimer la mer et son sel et sa puissance et sa beauté si c'est pour la ranger, comme tant d'autres données, dans un tableur Excel? Elle nage la brasse coulée, elle trouve son rythme, elle n'a plus froid maintenant. C'est tellement bon d'être ainsi accueillie, enveloppée, portée, de sentir les tensions de son corps soudainement apaisées, fluidifiées. Elle ne pense plus à son livre, elle ne pense à rien d'autre qu'à respirer en rythme, plonger la tête en soufflant, sortir la tête en inspirant et recommencer. Et c'est comme une danse, l'eau froide est tellement plus puissante que l'eau chaude. Elle est tellement bien qu'elle ne voit même pas le soleil qui revient, perce le gris sombre du ciel et vient frapper le blanc de la falaise, le rehausser soudain, le rendre à son éclat étrange, irréel. Et c'est alors qu'elle comprend. La chose lui apparaît comme une évidence. Elle n'a même pas eu besoin d'y penser. Il lui a juste suffi de plonger dans l'eau et de retrouver le rythme de sa brasse pour que tout d'un coup s'éclaire. Sa thèse, le dernier chapitre de son livre, mais ça ne va pas du tout. Il manque une idée, l'idée principale. Et cette idée, à laquelle pourtant conduit toute sa réflexion, elle vient de la trouver. Est-ce la mer qui lui a soufflé? Est-ce parce que dans la mer, elle a enfin réussi à s'abandonner, à s'en remettre à plus grand qu'elle? Mais quel est, au juste, ce pouvoir de la mer? Faut-il chercher notre salut dans la mer plutôt que dans le ciel? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir la philosophe Laurence De Villers, auteure récemment d'un joli essai, littéraire et érudit, mais très facile à lire, idéal à parcourir sur la plage avant d'aller nager, une petite philosophie de la mer. Laurence De Villers, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle question, la mer lave-t-elle de tous les maux?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui.
Bonjour Laurence De Villers.
Bonjour Charles Pépin.
Vous avez, j'imagine, reconnu Victor Hugo.
Oui.
Ces vers sur lesquels vous ouvrez votre très joli petit essai, Petite philosophie de la mer, aux éditions de La Martinière. Alors, vous êtes une philosophe qui pense, mais aussi une philosophe qui nage.
Oui, je nage en pensant et je pense mieux quand je nage. Je sais qu'il y a une école de philosophes qui pensent en marchant.
Ouais.
Moi, ça m'arrive difficilement. Je pense en nageant.
Mais quand vous ne pouvez pas nager, vous faites comment?
J'ai du mal à penser.
Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à philosopher comme ça sur la mer et à faire de la mer ou de l'océan un objet de philosophie?
Parce que j'ai eu un double étonnement. Le fait que la philosophie semble une activité de terrien. Qui considère la mer comme l'autre, pour des tas de raisons. Peut-être parce que c'est l'infini, le sans forme, peut-être parce que ça nous fait changer d'état, dans la mer on flotte, on ne marche pas, justement. Ouais. Mais, dans le même temps, quand il s'agissait pour les philosophes, et pas des moindres, hein, Épictète, Spinoza, Pascal, Blumenberg, quand il s'agissait pour eux de dire ce qu'était la condition humaine, ce que signifiait vivre pour nous, ils utilisaient une métaphore, et la métaphore de la mer. Donc, à des points fondamentaux de leur philosophie, là où on attend qu'ils fassent leur travail, hein, qu'ils soient des philosophes et qu'ils nous donnent des concepts, ben non, ils donnent des métaphores, et particulièrement la métaphore de la mer.
Et à votre avis, pourquoi?
Alors, je me suis posé la question, j'ai essayé d'y répondre. D'abord, pourquoi l'usage de la métaphore? Mais je pense qu'à des moments critiques où la philosophie essaie de montrer qu'elle énonce pas une généralité, mais quelque chose qui me touche en propre, elle passe à la métaphore, me semble-t-il. Elle le fait aussi dans les situations inquiétantes, pour dire une inquiétude, quelque chose que qu'on affronte, mais avec difficulté, parce que toute la compréhension ne peut pas être faite. Mmh. Et là, la philosophie fait appel à la métaphore et la métaphore maritime. Pascal, le fragment 229 dans les Pensées, il est en train de nous dire, d'essayer de nous réveiller, de nous dire, ne laissez pas vos consciences endormies, il faut vous affoler de ce dont vous ne vous affolez pas, la vie. La vie est affolante, elle est à la fois terrible et réelle, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit que c'est l'équivalent d'un naufragé endormi qui s'éveille sur une île déserte, sans moyen d'en sortir.
Vous pensez que la philosophie est plutôt une méditation des tempêtes qu'une philosophie pourtant calme?
Oui, alors, et pourtant elle a essayé de se définir, alors un autre philosophe qui a à la fois pensé et la situation du sage et la métaphore maritime, c'est Lucrèce qui dit « Suave Marie Magno, comme il est doux depuis le rivage de voir les tempêtes ». C'est-à-dire ceux qui, contrairement aux sages, vont se naufrager. Donc je pense que la philosophie a la prétention de nous mettre à l'abri sur le rivage, mais de tenter de penser quand même son autre qui, selon moi, reste la mer.
J'ai toujours trouvé ça très mesquin, cette idée de cette sagesse antique qui est « Réjouis-toi d'être sur terre quand les autres sont en pleine tempête en mer ». Moi, chez moi, ça n'a jamais marché. Je trouve ça médiocre comme idée.
Ça nous heurte parce que ça heurte notre principe d'égalité où le sage doit être quelqu'un parmi nous et comme nous, alors que pour Lucrèce et les sages de l'Antiquité, ils sont au-dessus de la mêlée. Et oui, moi je vais vous dire, je ne trouve pas ça mesquin, mais je me suis dit qu'il doit s'ennuyer. Parce que les tempêtes, enfin, c'est ça qu'il faut aller affronter, me semble-t-il.
Alors, ce qui est très joli dans votre essai, c'est, donc, il y a une table des matières où vous prenez à chaque fois un petit chapitre et c'est une porte d'entrée à chaque fois différente sur cette philosophie de la mer. Je donne quelques titres pour qu'on comprenne, fuir les sirènes, tout le sel de la mer, hisser les pavillons, la baleine blanche, nager, etc. La philosophie du requin. Et à chaque fois, comme ça, il y a un chapitre qui est une manière de comprendre quelque chose au travers de la mer. Alors prenons l'exemple de l'île. J'ai l'impression que vous parlez de l'île, vous partez de l'île pour nous dire que, au fond, chaque être humain est une île, comme si la singularité relevait d'une forme d'insularité.
Oui, alors la forme du livre, c'est lié aux contraintes de la collection. Donc je remercie à la fois mon éditrice de l'effort que ça m'a demandé et de l'idée qu'elle a eue. L'insularité, c'est selon moi l'idée que il faut d'abord s'appartenir pour être ouvert aux autres. On ne cesse à notre époque de nous dire qu'il faut de l'ouverture, qu'il faut être ouvert, qu'il faut être dans le dialogue, dans l'échange, dans l'interaction. Oui, sans doute. Je vais pas prôner l'isolement, mais je crois qu'avant de s'ouvrir aux autres, il faut s'appartenir. Et s'appartenir, c'est cette insularité fondamentale. Je crois qu'en réalité, on n'est jamais suffisamment nous-mêmes.
Mais vous voulez dire que quand on regarde une île, quand on médite, quand on est dans une méditation devant une île, on comprend ce que c'est qu'un individu?
Alors moi, ma mère à moi, c'est celle du Nil. Vous avez parlé de la Normandie. Ouais. Moi, je me baigne en Corse. Donc, j'ai beaucoup songé à cette insularité qui est d'abord, qui est géographique, historique et qui est politique en Corse. Et je me dis que précisément, quand on vit sur une île, quand on a cette insularité, ouais. Alors ça va vous paraître peut-être paradoxal, mais moi ça m'a fait comprendre les grands auteurs du XVIIe siècle avec ces...
Expliquez-nous ça.
Alors, je vous explique je vais pas vous expliquer le cogito, tout le monde est au courant, Descartes, soi-disant philosophe français, alors qu'en réalité il est beaucoup plus néerlandais, mais qui nous dit à un moment donné, la seule chose dont je sois sûre, c'est que j'existe parce que je pense. Et tout pendant que je pense, c'est comme si je me touchais du doigt, j'existe. Eh bien, cette assurance très cartésienne, cette idée que j'avance avec cette assurance dans la vie que je suis, j'existe, et que ce qui m'appartient vraiment, c'est moi-même et ma pensée. Oui. Je trouve que c'est un exemple d'insularité. Alors, on le retrouve dans tout le XVIIe siècle, cette idée, même dans un monstre de tragédie comme Médée, la Médée de Corneille. Il y a un monstre, elle a tué ses enfants, elle veut tuer son mari, enfin, c'est horrible.
Pas très sympathique, Médée.
On n'en fait pas le millième quand on veut se venger de quelqu'un qui vous a trompé. Donc, cette Médée de Corneille, qui est atroce, pour moi, il y a un vrai complexe de Médée, c'est que à la fin, on l'a trompée, on l'a trahie, elle est abandonnée, elle n'est plus aimée, mais elle dit « je m'appartiens » et elle part...
Comme une île, en fait.
Exactement. Et elle part avec cette assurance. S'appartenir, ça me semble fondamental.
Faut quand même se laisser aborder, non? Se laisser accoster?
Pas sûr. Il y a une île que j'aime beaucoup, j'ai pas eu la chance d'y aller encore, Pierre Ier, qui est quasi inabordable. Charcot a essayé d'y aller, Isabelle Autissier, elle a pu y aller, mais... Vous savez, le poème de Blaise Cendrars, vous m'y faites penser, il,
oui, fait,
où
oui.
Jamais on ne peut prendre pied. Bah, pourquoi pas?
Alors, autre exemple d'entrée, hein, nager. Et nager, pour vous, ça veut dire en finir avec la pesanteur de l'ego.
Oui, parce que à la fois on a beaucoup de difficultés à être nous-mêmes, parce qu'on est absolument encombré de plein de choses qui ne sommes pas nous, y compris l'image qu'on veut avoir de nous-mêmes ou qu'on voudrait que les autres aient de nous. Et en même temps, nous avons des appels à la légèreté. Et nager, pour moi, c'est une épreuve d'humilité. C'est une vraie discipline de l'ego. C'est je dois apprendre à me délester.
À m'alléger, vous diriez ?
Ah oui, à m'alléger absolument, bah, ne serait-ce que parce que je vais difficilement nager en étant harnaché. Enfin, il y a quand même, on se libère, on est à moitié nu, et puis on doit absolument accepter de s'abandonner à plus grand que soi. Enfin, c'est ça nager.
Je lis le début de ce chapitre qui m'a beaucoup plu. Les premières brasses sont comme un miracle, je flotte. Mon corps n'est donc pas de pierre. Je ne coule pas, je suis porté par la mer, partenaire de sa houle et de ses flots. J'ai bravé la gravité, je suis désormais en apesanteur dans le bleu des vagues.
Oui, l'expérience de la nage, c'est... Voyez, on se demandait pourquoi la philosophie utilise la métaphore et la métaphore maritime. Parce que je crois qu'il y a peu d'expériences, pour moi c'est l'unique expérience, où on change d'état. Peut-être que voler, peut-être que nager ressemble à voler. Mais dans la mer, mon corps, les limites de mon corps s'effacent. En fait, je suis la mer. Je deviens la mer. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Alors, des tas de gens me disent la montagne. Je suis pas convaincue du tout.
Et c'est pourquoi quand je plonge dans l'eau, dans la mer, je ne plonge pas en moi. Finalement, je m'allège de moi-même.
Je m'allège de moi-même et j'accepte de me dire qu'il y a plus grand que moi. Enfin, c'est une épreuve d'humilité, de désencombrement. Je ne plonge pas en moi. Je plonge dans l'inconnu, dans plus grand que moi. Et je consens à justement à me dire l'humilité me fera toucher du doigt plus important que moi.
Mais peut-être, plongeant ainsi hors de moi dans la mer, je me retrouve néanmoins.
Je me retrouve parce que, je l'ai dit, s'appartenir pour moi, c'est une vraie vertu, c'est un véritable but dans l'existence. Mais je m'appartiens là où c'est essentiel que je m'appartienne. Il y a des tas de choses qu'il faut abandonner quand on nage.
Alors ce très joli essai s'achève par une philosophie du requin. Expliquez-nous, parce que le requin n'est pas très sympathique. Au début j'étais un peu surpris, et puis finalement je crois que j'ai compris que, au fond, être requin, c'est toujours devoir avancer pour survivre, c'est ça ?
Ouais, c'est-à-dire que le requin qui ressemble pas aux autres, il a 6 à 7 paires de branchies, donc il a besoin d'être en mouvement permanent pour pouvoir respirer. Mais il y a deux formes de mouvement. Il y a la frénésie et ces enchaînements d'occupations qui sont notre lot, hélas, je crois, quotidien. On ne fait que se dire suivant. Et puis, il y a le mouvement comme force vitale. Le mouvement qui est en réalité la marche du désir. Qu'est-ce qui me fait continuer d'avancer ? Et souvent, ce qui est frappant, c'est que nous ne sommes pas assez des requins, c'est que nous ignorons le vrai désir qui est notre mouvement vital.
Qui nous met en mouvement.
Absolument. Je crois qu'on se trompe souvent sur nos désirs. Et aussi parce que le requin vient de la nuit des temps, et c'est ça aussi la mer. Il y a quelque chose de primordial dans la mer. Il y a un retour au primordial. Donc, il a plus de 400 millions d'années et on l'a massacré. Je trouve que c'est un bon résumé. On en a fait un trader sans scrupules, cynique. Alors que c'est pas ça. C'est absolument pas ça. C'est un animal massacré. Donc, je trouve qu'on a tout.
On a massacré le roi de l'océan.
Le roi de l'océan.
Est un roi de l'océan. Il voit dans l'obscurité mieux que les chats. Mmh. Il a un odorat 10 000 fois plus développé que celui des humains. Un sens du goût extrêmement sensible. Il détecte même les champs électriques de ses proies. Et surtout, le requin n'arrête pas de nager. Il reste en permanence actif. Je propose de lire un autre extrait de votre essai, L'encre de miséricorde, pour qu'on comprenne ce style que j'aime bien, un style littéraire, un style délicat, et finalement, c'est peut-être comme ça qu'on fait le mieux de la philosophie. L'encre de miséricorde, donc, savoir s'abriter des vents. Sur un bateau, l'encre de miséricorde est l'ultime secours. Aussi appelée encre sacrée ou encre de salut, elle est la plus lourde et la plus grande des encres à bord. On s'en remet à elle au plus fort des périls, au cœur des plus terribles tempêtes. Chacun de nous a son ancre de miséricorde, capable de calmer les tourments, d'assurer une trêve lorsque soufflent les vents. C'est elle qui garantit un peu de répit, qui fait miséricorde, c'est-à-dire qui gracie. Dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, la miséricorde est désignée par le terme de Rehem, qui est comme le cœur de Dieu, sa bonté, sa tendresse envers les hommes, qu'il pardonne et console. L'ancre est ainsi devenue un symbole pour les premiers chrétiens, un code de reconnaissance. Elle est gage de force, de ce qui ne cède pas quand tout semble perdu, et signe d'espérance. Cette confiance, même fragile, même malmenée, qui fait malgré tout continuer d'avancer. Qu'est-ce qui redonne espoir et qui rassénère. Où trouver son encre de salut, celle qui préserve du découragement? Où est cette maîtresse encre susceptible de mettre fin à l'angoisse, d'apporter de la stabilité quand tout paraît compromis? Sait-on d'ailleurs bien reconnaître cette encre sacrée et y avoir recours sans tergiverser? Pour cela, il faut d'abord consentir à demander merci, ce mot d'ancien français qui signifie précisément la miséricorde, la grâce. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est d'abord vers soi qu'il faut se tourner et réussir à dire fermement « c'est fini ». Et puis un peu plus tard, que je sois mon propre libérateur, moi qui trop souvent suis mon pire tourmenteur. C'est cela, avoir une encre de miséricorde, s'abriter derrière des vents dominants, mouiller l'encre, car on ne la jette pas. La manœuvre est trop délicate pour se contenter d'un simple lancer. Prendre, et c'est la conclusion de votre beau chapitre, prendre la ferme résolution de mettre un coup d'arrêt à ce qui m'abîme trop souvent et me préoccupe inutilement, à ce qui disperse mes forces, dilapide mes talents. Cette encre sacrée qui m'attache à moi-même m'offre paradoxalement aussi la plus grande des libertés, celle de m'appartenir pleinement, quels que soient les courants. On comprend bien, Laurence de Villers, votre méthode. En fait, vous partez d'un élément de la mer, ça peut être un phare, ça peut être une marée, ça peut être une angle de miséricorde, et puis vous y allez, vous vous laissez porter.
Mais en fait, je me suis rendu compte, alors au moment où mon éditrice m'a demandé d'écrire ce livre, j'étais justement à terre. Donc j'allais, je crois que j'ai traversé la pire période de ma vie. Et j'arrivais plus à écrire, et mon éditrice m'a dit, il y a quand même bien quelque chose qui te reste, que tu peux écrire. Et je me suis rendu compte que je pensais dans mes souvenirs de mer, c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelque chose d'artificiel dans toute collection, il y a des contraintes, donc il fallait prendre un élément de la mer et essayer d'en tirer un enseignement philosophique. Mais je me suis rendu compte que au-delà de la contrainte, il y avait vraiment des choses que j'avais essayé de comprendre ou peut-être enfin comprises grâce à la mer. Pour moi, il y a une existence maritime.
Alors qu'est-ce que la mer vous a permis de comprendre ?
Elle m'a permis, alors déjà nager pour moi, curieusement. Ça permet deux choses que j'associe à la philosophie. Penser, je vous l'ai dit, c'est pour moi, ça me permet vraiment d'avoir une plus grande facilité à l'abstraction. Curieusement, la mer, la philosophie est quand même très abstraite. Et la mer facilite pour moi les idées les plus abstraites, les plus spéculatives. En gros, je comprends mieux Hegel dans la mer, corps de la mer. Et l'autre chose que la mer m'a permis de comprendre, c'est le danger. C'est que très souvent, la philosophie fait peur parce qu'on se dit, mon Dieu, si je comprends pas. Mais tant mieux. Je pense qu'il faut apprivoiser la peur de ne pas comprendre. Et je me suis rendu compte que j'aimais la philosophie quand je vais au plus près de la possibilité de ne pas comprendre.
Oui, c'est beau ça.
Que quelque chose m'échappe.
Accueillir l'imprévu, et c'est ça que la mer vous a appris.
Yeah.
C'était la grande Sophie, la mère.
Sous le soleil de Platon.
Est-ce que nous irons au phare ?
Oui, James, bien sûr, s'il fait beau demain. Mais il faudra se lever à l'aurore.
Il ne fera pas beau demain.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Laurence de Villers et nous parlons de ce très joli petit essai. Alors je dis petit parce qu'il est réellement petit, mais il est très délicat. Chaque chapitre est une sorte de fenêtre ouverte sur une philosophie de la mer. Vous nous racontiez tout à l'heure que vous avez eu cette commande, au fond, parce que c'était une commande de votre éditrice, d'écrire sur la mer alors que vous étiez, disiez-vous, complètement à terre, parce que je ne savais pas. Mais la mer vous a aidé. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Platon, enfin en tout cas c'est une phrase qui lui est attribuée, que la mer lave de tous les maux?
Oui, je pense qu'il y a une... Je pense d'abord qu'on a chevillé au corps ou dans nos vies l'idée qu'il faut être sauvé. Je ne sais pas de quoi. Et c'est pas du tout religieux quand je dis ça. Je pense qu'il y a en nous l'idée que peut-être le bonheur, c'est ça. Que le bonheur contient une forme de consolation. Et moi, je sais que quand je vois la mer, quand je nage encore plus, quand je vais sur mer encore davantage, mais j'ai l'idée d'abord de partir, de fuguer, ouais. Ça on est d'accord, mais aussi que je vais être lavée de tout ce qui pèse, que je vais être sauvée. Il y a un salut pour moi dans la mer. La mer contient un salut.
Plus que le ciel ?
Oui, plus que le ciel. Exactement. Plus que le ciel.
On apprend d'ailleurs dans votre livre que ce n'est pas le ciel qui donne sa couleur à la mer, mais au fond le soleil. Et que le bleu, vous avez un très joli chapitre qui porte pour titre « Bleu outre-mer », et qu'en fait le bleu il vient soit du fond, soit du soleil, mais en aucun cas du ciel.
Alors ça peut, le ciel fait quelque chose, mais on s'est rendu compte que la mer était bleue dans des grottes où évidemment il y avait pas le ciel. Donc en fait c'est toute une chimie, enfin c'est très technique, très scientifique. C'est la manière dont la mer réverbère la lumière, le spectre lumineux. Ouais. Donc à un moment donné, plus on va profond, la seule chose qui reste c'est le bleu. Le vert disparaît, le rouge disparaît en premier, le vert, et puis il reste plus que le bleu. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de paysage bleu, il n'y a pas de bleu dans le paysage. Pour moi, la mer n'est pas un paysage de toute façon. Mais on oublie, parce qu'on associe tellement la mer au bleu, mais on oublie qu'il y a quelque chose de franchement détonnant et de sauvage dans ce bleu.
Là-dessus se greffe tout le dossier du bleu romantique. L'âme romantique a une attirance particulière pour le bleu qui est pour elle la couleur du rêve, la couleur du lointain, la couleur de la mélancolie. Mais c'est aussi le bleu qui va perdurer et arriver jusqu'à nous par le biais du blues. C'est un bleu romantique, au fond, le blues. C'est le bleu de l'heure bleue. Aux États-Unis et au Canada, on appelle heure bleue l'heure de la sortie des bureaux, quand les hommes, avant de rentrer chez eux, s'en vont dans les bars et les cafés et s'enivrent un peu pour fuir dans le lointain les tristes réalités de la vie quotidienne.
C'était la belle voix de Michel Pastoureau que j'ai choisi pour faire résonner votre chapitre sur le bleu outre-mer. Je lis quelques lignes de vous. La mer n'est pas un paysage, c'est une apparition. On n'en fait pas le tour, on peut difficilement en décrire l'aspect et les contours. Elle ne s'explore pas vraiment, elle s'impose insondable, impénétrable. Cette chair bleue indomptable n'est en réalité pas bleue du tout.
Oui, elle n'a pas de couleur, la mer. Enfin, elle est blanche comme un verre d'eau. Elle nous ment, en réalité. Enfin, elle se pare, elle se maquille, elle se farde. Et moi, je suis pour tous les artifices. Je trouve que c'est une autre bonne leçon de la mer. C'est qu'on condamne généralement les artifices au nom du naturel et de l'authentique. D'abord, je ne sais pas où se loge l'authentique vraiment. Et je pense que le réel ne suffit jamais. Il faut absolument le farder et le maquiller. C'est l'heure bleue dont parle Michel Pastoureau. C'est surtout fuir ce qui est trop réel, ce qui est trop présent, ce qui est trop là.
Et en même temps, en plongeant dans quelque chose qui est extrêmement réel, extrêmement là et extrêmement enveloppant.
Enveloppant au point où, effectivement, je me sens... Moi, je me sens face à la mer comme face à un sanctuaire, c'est-à-dire quelque chose qui me dit, alors non pas avec la signification de saint, un sanctuaire veut dire qu'il ne peut pas être touché, on ne peut pas mettre la main dessus, c'est inviolable. Et pour moi, il est important que nous ayons la conscience aiguë du fait qu'il y a des choses qui sont inviolables. On ne met pas la main dessus.
Mais pourtant, aujourd'hui, avec le problème de la surpopulation, avec le problème climatique, écologique, un des grands projets de survie de l'espèce humaine, ce serait de réussir à vivre sur la mer, d'habiter sur les océans, comme le font déjà quelques Asiatiques.
Ça me fait frémir.
Pourtant, on pourrait être bien.
Alors, moi, je serais forcément très très bien. Je voudrais pas trop retrouver la pénibilité d'avoir des voisins qui font du bruit en étant en mer, alors que pour moi, c'est vraiment l'école du silence. Mais je crains qu'après avoir saccagé la terre, où effectivement, on est comme but d'aller saccager la mer, c'est terrifiant. Je pense que ça nous attend.
Est-ce que vous pensez, Laurence de Villers, que la joie est de nature liquide?
Je me demandais si vous alliez me poser la question de la joie. Alors. La joie, j'y réfléchis, figurez-vous, parce que j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Je pense que la joie est tellement rare que j'ai même peur d'utiliser le mot. Le seul équivalent que j'ai d'une joie comme ça immédiate, qui me semble évidente, c'est l'éclat de rire. Mais alors, je ne saurais pas vous dire si elle est liquide. En tout cas, j'essaie philosophiquement, et peut-être vous m'aiderez, Charles Pépin, de trouver le mot qui correspond à cette expérience que j'ai face à la mer, mais je ne suis pas la seule, d'une dilatation, d'un élargissement. Alors j'allais dire de mon âme, parce que je suis 17e, mais si vous voulez, on ne dit pas âme, mais il y a quelque chose. La mer, sans doute parce qu'elle est infinie et qu'elle me donne le seul horizon comme champ visuel, la mer me dit qu'il y a plus grand en moi que ce que je suis en train de vivre. Elle me procure cette oui. Je pense au vers de Baudelaire, que l'espace est profond et que le cœur est puissant. Il y a un élargissement, il y a quelque chose de spacieux. Et je me rends compte que finalement, il y a plus en moi que ce que j'imagine. Donc si vous voulez l'appeler joie, pourquoi pas.
Je ne suis pas obligé, mais quand vous parlez d'élargissement, d'espace, vous diriez que la mer est plus grande que le ciel ?
Ah oui, mais vous m'y avez. C'est vous qui l'avez souligné et je m'en étais pas rendu compte. La mer joue pour moi le rôle d'un ciel en réalité. C'est qu'elle est le salut, l'au-delà, une transcendance. Mais ce qui m'intéresse dans ce sentiment d'élargissement face à la mer et dans la mer, c'est que c'est une transcendance horizontale. Ça n'appelle pas un autre monde, ça n'appelle pas au-delà.
C'est une immanence.
C'est de l'immanence, et si vous voulez, le philosophe qui pour moi exprime le mieux ce qu'on est en train de dire, la mer et pas le ciel, c'est Camus, c'est le Camus de Nos, c'est-à-dire que... Alors Camus qui s'est absolument défendu d'être un philosophe qui prônait l'espoir, la possibilité d'une espérance, pour moi c'est un philosophe de l'espoir, et surtout dans Nos, quand il parle de la mer, c'est-à-dire cette espèce de gloire... à faire son métier d'homme, dit-il, cette gloire à habiter l'ici-bas tel qu'il est, à l'affronter dans les yeux, avec ce qu'il a de lâche, d'abîmé, de laid, de beau, de fougueux, de flamboyant, mais voilà, l'habiter vraiment tel qu'il est. Et pour moi, la mer, c'est cela, cette transcendance immanente.
Mais justement, dans le texte de Camus que vous évoquez, Nos, Atipassa, ou l'été, quand on le voit comme ça, aller nager, et puis s'effondrer sur la plage, avec sa peau craquelée de sel, cette espèce d'immanence, j'aurais plutôt envie de dire qu'il n'y a rien à espérer. Justement, que tout est déjà là, et que c'est ça qui est là. C'est même pas une consolation, c'est une présence, au fond. Alors que dans l'espérance, il y a l'attente de quelque chose qui n'est pas là.
Alors, il y a l'espérance d'un au-delà. C'est-à-dire qui peut même aller jusqu'à fuir le présent et ouais. Se dire que rien n'est là, que cette vie est une vallée de larmes. Et puis, je crois qu'il y a une espérance qui rejoint ce qu'on disait, qui est un moteur de notre volonté. Qu'est-ce qui fait qu'on veut quelque chose? Qu'est-ce qui fait qu'on fait quelque chose? Et qu'on continue? Et que demain, vous et moi, on va quand même continuer à vivre? Je crois que ce moteur-là, c'est l'espérance. Ah oui, c'est ça que j'appellerais l'espérance. C'est que effectivement tout est là, mais ça m'empêchera pas de continuer et d'être animée de ce mouvement.
Mais vous êtes croyante ?
Oui, je suis croyante. Donc,
alors j'ai oublié de préciser, je vous interromps parce que c'est important, que vous êtes doyenne de philosophie de l'Institut catholique.
Je le suis plus, Dieu merci. Donc oui, je suis croyante, et c'est bien parce que je suis croyante que je m'intéresse beaucoup
à la mer.
À la mer et à ce qu'il y a de salut dans cette vie.
Alors justement, dans ce cas-là, il faut que j'élargisse un peu notre discussion en précisant que vous avez écrit beaucoup de livres avant, et notamment des livres dans le champ de la philosophie morale ou de la philosophie éthique. Un bonheur sans mesure en 2017, guérir la vie par la philosophie en 2017, être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal, au PUF en 2019. Et donc, quel est le rapport entre cette philosophie éthique ou morale, on pourrait dire comment on fait pour bien se comporter, pour s'améliorer, et cette philosophie de la mer? Et pour le dire autrement, est-ce que la mer nous dit comment bien agir?
Alors, le point commun, je pense que précisément, j'essaie de mettre au jour cette transcendance dont on est en train de parler. Et la morale est une transcendance, c'est-à-dire que le bien et le mal passent par moi, dépendent de moi, le mal pour ne pas être fait et le bien pour prendre sa place dans ce monde. Donc il dépend de moi de sauver le monde. Et en même temps, il y a un appel du bien à être accompli par moi qui me dépasse. C'est-à-dire que c'est pas uniquement ce qui est bien pour moi et selon moi.
Alors ça, je comprends bien. Votre position morale, je la comprends. D'ailleurs, je vois aussi que vous vous opposez souvent à Lévinas qui dit que je me sens moral, que l'autre m'impose une moralité, alors qu'en fait, d'après vous, j'ai cette moralité en moi.
Absolument.
C'est pas le regard de l'autre qui me l'impose, c'est moi en tant qu'humain.
J'ai une inquiétude morale qui fait que je vois l'autre. Sinon, si j'avais pas cette inquiétude morale en moi, l'autre pourrait passer devant moi, je le verrais pas. Ce qui me fait voir l'autre, c'est d'abord parce que j'ai une préoccupation éthique.
Oui, j'aime beaucoup cela dans votre œuvre, cette objection à Lévinas. Mais par contre, là, je vois pas le rapport avec la mère.
Mais parce que dans la mère, on essaie enfin, en tout cas, moi, j'essaie d'y mettre des mots. La mère me dit aussi qu'il y a un salut, une consolation et une transcendance ici-bas. Vous voyez, on parlait d'espérance et vous m'opposiez que l'espérance, ça empêche de voir que tout est donné là. Moi, je pense qu'il y a même une espérance chrétienne qui fait acquiescer à ce monde-là.
Comme une sorte de phare dans l'obscurité. Alors justement, vous avez un joli chapitre sur les phares, je crois qu'il s'appelle « La permanence des phares », c'est ça ? La constance des phares. Et je voudrais à ce sujet qu'on écoute quelqu'un qui en parle très bien.
Mais envie d'aller sur un phare, non, ça ne m'a jamais... Et pourtant, les phares, bon, même si on n'aime pas les métaphores, sont de sacrés symboles. Hein. C'est le symbole de la vie, c'est le symbole, c'est la lumière, c'est le symbole du guide, c'est le symbole vers lequel on se retourne quand tout est perdu, il n'y a plus rien, il y a le phare. Bon, et le phare, il est là. Et...
C'était Michel Mazéa. Alors, vous avez une autre entrée, donc la constance des phares. Donc, pour vous, c'est quoi ? La mère nous rappelle qu'il faut des phares, c'est ça, dans l'existence ? C'est ça l'idée ?
La mère nous rappelle qu'elle est un danger, enfin, qu'elle est la mort et le danger. Enfin, tout navigateur le dirait, mais c'est pour ça que je l'aime aussi. Hein. J'ai bien failli laisser ma peau plusieurs fois en allant nager ou plonger là où il fallait absolument pas, mais c'est ce que je recherche. C'est la pointe de l'humilité, hein. C'est aller jusqu'à ce que peut-être ça me fasse disparaître. Mais... les phares sont indispensables précisément parce que la mer n'est pas faite pour nous. Elle est inhumaine. On respire pas longtemps dans la mer sans appareil pour nous y aider. On peut s'y naufrager, s'y noyer, s'y perdre. Donc il faut des phares. Enfin, c'est le dernier rempart terrestre contre cette grande sauvagerie maritime. Et puis l'extrait que vous avez passé le dit. Je crois qu'on, de la même façon qu'on se trompe sur le désir vraiment véritable qui nous meut, je crois qu'on se trompe de phare. Je crois qu'on peut croire très longtemps dans sa vie que son vrai phare, le vrai guide, la chose qui compte le plus pour nous, ce qu'on appelle des valeurs, je crois qu'on peut faire des méprises totales sur ce qu'on croit être nos valeurs et nos phares. Donc il ne faut pas se tromper.
Il nous revient de préserver l'espérance, écrivez-vous à la fin de ce chapitre, la constance des phares, de nous assurer de la constance de nos phares, qu'on en fasse très sérieusement l'inventaire, qu'on note bien sur nos routes ces points fixes, personnes, plaisirs ou lieux dits, qui n'ont jamais ni failli, ni trahi. C'est beau cette idée. Vous n'êtes pas un peu généreuse en mettant le mot phare au pluriel ?
Ah, je pense qu'on en a plusieurs. Non, je pense qu'on en a plusieurs. Parce que j'ai du mal avec un seul guide spirituel. Je trouve ça toujours dangereux de se dire que un seul a le monopole de la vérité. Alors vous allez me dire c'est pas très chrétien, mais
non. Je comprends bien que cette idée que on a moins de risques d'être asservi s'il y a plusieurs maîtres qui se font la guerre pour nous asservir.
Servir de maître, c'est être libre.
Voilà, donc c'est ça. Ça j'avais compris, mais je veux dire, imaginons que ce phare ne soit pas un maître extérieur, ne soit pas un dieu ou un chef, mais soit par exemple ma boussole intérieure, soit mon intuition, ou soit ce que Lacan appelle mon désir. Dans ce cas, peut-être que seul phare suffit.
Alors, moi je l'appellerais mon âme. D'abord parce que je suis 17e-iste, c'est ça, hein, c'est le mot qu'on dit, le phare intérieur, ce phare unique dont vous me parlez. Moi je dirais mon âme. J'ai une âme. C'est mon phare.
Vous êtes 17e-iste, vous avez écrit des livres sur Descartes, Leibniz, etc. Cette âme, peut-être on pourrait l'entendre justement autrement. Voilà, vous l'entendez comme ça, d'autres pourraient mettre sous ce mot le sujet. Peut-être Paul Ricoeur dirait « je suis le sujet », Lacan « mon désir », peut-être Sartre « mon projet ». On entend en tout cas résonner, et c'est très joli, la multiplicité de nos phares possibles.
Page, tension and to left on a dark stage.
Franz Ferdinand, Curios.
Sous le soleil de Platon.
Au-dessus des grèves, les vagues, la mer qui se déchaîne, ça c'est joli.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes avec Laurence de Villers et nous parlons de votre petite philosophie de la mer sortie aux éditions de La Martinière. Il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée mais qui est quand même évidente, c'est que cette mer d'huile, cette mer si belle à contempler, parfois se déchaîne et devient complètement inhumaine. Qu'est-ce que la philosophie peut dire de ça ?
Alors la philosophie, elle est un peu empruntée avec les tempêtes, me semble-t-il. C'est que, comme on l'a vu, la position du sage, c'est regarder de loin les tempêtes. Ou alors, c'est parce que c'est la position du sage aussi, c'est Spinoza, dans l'éthique, qui nous dit, ah, là aussi, métaphore maritime, en plein cœur de l'éthique, qui est quand même pas de la poésie, hein, et qui nous dit, il faut qu'on soit spinoziste, en quelque sorte, donc qu'on connaisse les causes qui nous font agir, pour ne pas être comme les vagues en mer, en tempête, en fait, il décrit une tempête ballottée de ci, de là par des vents contraires et qui finissent par noyer. Donc il faut qu'on connaisse ce qui nous fasse agir. Donc la philosophie, à la fois, veut nous préserver des tempêtes. Et moi, je n'y crois pas, parce que je trouve que la philosophie, c'est une discipline des tempêtes. C'est précisément ce qui va bouleverser ce qu'on croit bien rangé. Si la philosophie ne vient pas me déranger, si elle n'est pas pour moi une entreprise d'inquiétude, quand Artaud parle du théâtre de la cruauté, moi je l'applique à la philosophie. Pour moi, la vraie philosophie, elle est cruelle. C'est une discipline de la cruauté et des tempêtes. Donc j'ai toujours du mal à croire les philosophes qui me disent on va tout réparer dans vos vies, on va faire en sorte de vous mettre à l'abri et vous ne connaîtrez pas de tempête. Je crois que c'est pas une bonne définition de la philosophie.
Le vent se lève, il faut tenter de vivre et peut-être alors tenter de philosopher ?
Absolument. Je pense qu'on philosophe dans l'inquiétude, dans les vents contraires, dans la contradiction, dans le contradictoire. En allant, comme je vous le disais, au plus près du danger qui est « et si peut-être je ne comprenais pas ».
Oui, on peut aussi penser d'ailleurs que la philosophie, et d'ailleurs notamment la philosophie qu'on enseigne en France, que vous enseignez, même en classe de terminale, c'est de dire voilà, vous êtes tranquille, vous les ados pour l'instant, enfin pour la plupart, mais il y aura des tempêtes et on va les anticiper, on va les penser avant qu'elles n'arrivent pour que peut-être vous puissiez non pas les gérer, non pas les dominer, mais peut-être vous préparer au fait qu'au fond vous ne serez pas prêt.
Ben, comme le dit Tabarly, l'essentiel c'est de pouvoir dire « je suis passé ».
Eh bien, on va écouter maintenant Gérard d'Abbeville qui nous raconte aussi ce que la mer nous fait, notamment quand elle nous rend seule.
C'est certain qu'entre Robinson, Bombard, moi-même, il y a un trait d'union, un trait commun, c'est la solitude. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, la solitude, il faut qu'elle soit acceptée. Sinon, c'est invivable si ça dure un petit peu longtemps et puis si on refuse sa solitude, on ne peut pas tenir. Alors c'est cette acceptation de la solitude qui fait que parfois, cette solitude qui est un handicap, hein, en général c'est pénible d'être seul, mais parfois cette solitude c'est aussi un petit peu, quelque part, une sorte de jouissance.
Ah oui, la solitude, absolument. Alors je l'avoue, alors j'essaie de me défaire d'un sentiment de culpabilité, mais moi quand je vais en mer, ou ne serait-ce que nager ou sous l'eau, j'y vais aussi pour profiter d'une solitude sans limite. Je n'y suis pour personne. C'est l'équivalent d'une fugue, hein. Je veux vraiment disparaître, quoi. C'est la paix totale, absolue. C'est la grande solitude, celle qui, à mon sens, ne peut pas être imposée, qui est une forme de joie pour moi.
C'est ce que vous écrivez à la fin de votre chapitre Robinson, justement. On comprend ce que vous dites là, et ça résonne. Le Robinson accompli, ce n'est pas celui de Defoe, obnubilé par la nécessité de faire quelque chose de son temps. C'est celui qui n'a d'autre ambition que d'expérimenter la splendeur du silence, la majesté du Farniente. Et aucun homme n'est une île déserte quand il est avec lui-même.
Oui, je le vois à travers les extraits que vous avez choisis. C'est vraiment, j'ai cette idée d'une forme de cogito répété qui est je m'appartiens, je suis le capitaine de mon âme.
Et en même temps, tout en disparaissant aussi.
Tout en disparaissant parce que je suis le capitaine qui reconnaît qu'il y a plus grand que moi et que je suis appelé à plus grand. La morale en moi, c'est cela. Il y a quelque chose qui t'appelle qui est plus grand que toi. Et puis la beauté, c'est aussi une transcendance. C'est une transcendance de pouvoir être humble face à la beauté et de pouvoir s'arrêter et la regarder, c'est une expérience de transcendance. L'espoir en est une, on en a parlé, une transcendance horizontale dans l'immanence et puis l'infini de la mer.
Alors c'est vrai qu'on comprend mieux du coup maintenant grâce à ce que vous nous dites le rapport entre votre philosophie éthique et la question de la mer. C'est que pour vous, on peut être moral quand on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui s'impose, en l'occurrence qui peut être le bien et le mal dans la morale, et face à la mer, on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, donc on est en quelque sorte conduit au seuil de la question morale.
Absolument,
c'est ça l'idée.
On est conduit, c'est le sublime voie d'accès à l'idée que la morale, c'est certainement pas du relativisme. La morale, c'est certainement pas du ça dépend, faut voir, ça dépend de l'histoire, ça va varier. Non. La morale, c'est un absolu, et cet absolu, on le vit aussi dans des expériences inattendues, comme le fait de regarder la mer.
Mais ce qui est bizarre, c'est que, puisque vous êtes croyante, vous l'avez dit, cet absolu, au fond, vient de Dieu. Alors quel besoin de passer par la mer pour le comprendre? Finalement, c'est comme si Dieu ne suffisait pas.
Alors je pense qu'il y a un risque de bonne conscience ou de puritanisme, ou de se dire, bon, les choses sont déjà faites, tout va très bien, de se dire que l'absolu moral, c'est Dieu. Donc en fait, c'est joué. Je le fais par respect pour Dieu, par respect de code, de loi, de table de la loi, de commandement. La foi ne doit pas dispenser de la morale. J'ose dire ça, je pense que la morale est première.
Kant, dans son travail, distingue le beau et le sublime. Pour lui, le beau, c'est ce qui est bien proportionné, c'est ce qui est harmonieux. Le sentiment du beau, c'est le sentiment d'une plénitude accomplie et, on va dire, tranquille. On peut avoir ça en regardant la mer ou un coucher de soleil sur la mer. Mais le sublime, c'est l'océan déchaîné, c'est l'orage qui se déchaîne sur la mer. Ce qui voudrait dire que le sublime nous indique qu'il y a quelque chose qui est absolument hors de notre proportion. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous permet de philosopher vraiment, de dire, voilà, ok, quand la mer est belle, et quand je la regarde, quand je la contemple, c'est une chose, mais il y a autre chose. C'est ce sentiment du sublime qui fait que je suis confronté à ce qui est absolument plus grand que moi.
Oui, j'essaie de cerner l'expérience qu'on peut avoir de transcendance, encore une fois, qui ne sont pas religieuses.
Transcendance sensible.
Transcendance qui se donne dans le sensible.
Transcendance dans l'immanence.
Dans l'immanence. Et qui sont même une expérience sensible totale. Je pense, alors ça peut surprendre, mais je pense que faire le bien, accomplir un acte juste, se mettre debout, refuser l'injustice ou tourner le dos à une lâcheté bien confortable, il y a une expérience sensible. Être quelqu'un de bien, c'est quelque chose qui touche tous mes sens.
Je vais lire un autre extrait de votre livre, l'entrée Mal de mer, survivre aux blessures du cœur, pour qu'on voit effectivement comment non seulement vous pensez la mer, mais comment aussi la mer vous aide à penser. Nous avons un problème et quelques rares solutions. Notre problème, le mal de mer. Faut-il, pour s'en prémunir, avaler des racines de gingembre, se tenir debout sur le pont, jambes écartées? Et si, décidément, cela ne passe pas, une autre solution s'offre à nous. Les digues. Tout à l'heure, on avait les phares, maintenant c'est les digues. C'est un moyen avéré de se protéger de la fureur des flots et des sentiments, cette mer de la passion amoureuse qui emporte, certes, mais qui cause dans le même temps ravages et naufrages. Personne n'est à l'abri, personne vraiment n'y survit. L'amour, sa poésie, mais ses tempêtes aussi. Dans un tableau accroché au Louvre, Watteau a peint la douceur d'aimer. C'est l'embarquement pour Cythère, l'île de Vénus, qui ne connaît qu'une saison, le printemps. Les personnages y avancent par couple dans un bruissement de soie et de sourires, de caresses et de serments. On est heureux, on est amoureux, et c'est pour la vie. Le temps est devenu une éternité de volupté. Tout est léger, aérien, divin. On ne marche pas, on l'évite. La mer au loin est une promesse de paradis tendre et de joie sans compter. La toile ne dévoile pas ce qu'il en est de la navigation et de ses périls, des pertes et des fracas qu'elle ne manque pas d'occasionner. Rien ne dit mieux que la mer ce que l'amour peut faire. Consoler tout comme noyer, ravir tout comme humilier. L'amour donne autant qu'il prend. Il meurt ou nous tue, comme les vagues emportent. Il est et le phare, et le récif, et la flamme, et la lame. Il offre en abondance et retire avec violence, parce que l'amour, même le plus beau, même le plus fort, ne dure pas toujours. C'est fatal, on ne commande pas plus aux sentiments qu'aux océans. Ils vont et viennent comme ils l'entendent, leur présence est un miracle, leurs dégâts irréparables.
Mais je voudrais pas donner le sentiment quand j'ai insisté avec vous, Charles, sur le fait que ce que le XVIIe siècle m'a appris, c'est que j'ai une âme, je suis le capitaine de cette âme et que s'appartenir est le premier devoir qu'on se doit à soi-même. Je voudrais pas donner l'impression d'une sorte de vaine gloriole et d'un moi en acier inoxydable. Je pense au contraire que il n'y a de Dieu que qu'abîmé, que fracassé, avec des blessures, naufragé. C'est quelque chose que vous avez beaucoup plus travaillé que moi, mais je pense que on ne rebondit pas d'un échec, c'est déjà bien si on y survit. Et on est aussi toutes ces blessures qu'on a. Je suis pas certaine que qui pousse quoi que ce soit dans ces pour moi c'est ça ressemble un peu à des déserts, mais notre grande force est quand même d'être capable de regarder ce réel en face et ma réalité à moi qui est faite aussi de failles, de blessures. Enfin, je suis abîmée.
Laurence de Villers, merci. On a bien compris tout ce que cette méditation, cette contemplation de la mer vous avez permis comme philosophie. Eh bien, cette philosophie, je vais essayer de la résumer ce matin pour nos auditeurs. Alors, c'est très intéressant. C'est une philosophie à la fois de l'individu qui veut être ce qu'il est, comme une île, et ne pas se laisser entamer, rester, s'appartenir, comme vous dites, et en même temps, être capable de s'oublier, être capable de s'abandonner, être capable de reconnaître, grâce à la puissance de la mer ou de l'océan, pourrait-on dire, qu'il y a plus grand que lui. Et à partir de là, il peut être un être moral, puisqu'il a compris que quelque chose s'impose à lui, qui peut être la mer, l'orage, la tempête, mais aussi, on l'aura compris, le bien, la nécessité de faire le bien, d'être quelqu'un de bien. Je recommande la petite philosophie de la mer aux éditions de La Martinière. Laurence de Villers, merci beaucoup de nous avoir permis de voguer sur ces flots avec vous ce matin. Cette émission a été préparée par Vera Louderide et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Matti, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, à la technique Arnaud Caillé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h précise, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter. Bonjour Évaroc. Alors dites-moi aujourd'hui au programme de l'été comme jamais, quels sont vos invités ?
Bonjour Charles, trois personnes formidables qui donnent envie d'apprendre, des vulgarisateurs comme on dit. À tout de suite.